Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, entre l'inhumain et l'humain, quelle distance ? Dans son livre intitulé « L'inhumain », le philosophe Nicolas Grimaldi notait ceci. L'univers concentrationnaire fut cette expérience limite où l'inhumanité des uns consista à réduire les autres à une autre forme d'inhumanité. Les uns pouvaient réduire à rien l'existence des autres. Le paradoxe des camps a toutefois été qu'au comble de l'inhumain ait été révélé ce qu'il y a en chacun de plus profondément humain. À bout de toute force, s'attendant à tout instant à ce qu'il dût être le dernier, chacun sentait, plus intensément que jamais sa solitude. Et pourtant, c'est sur cette lisière qui sépare à peine la vie de la mort que certains se sentirent plus intensément que jamais unis à tous les autres. L'expérience de la plus profonde communauté leur fut révélée au fond de la pire solitude. Tel est le paradoxe qu'il nous faut tenter de comprendre. Fin de citation. À ce premier paradoxe relatif à l'inhumain évoqué par Nicolas Grimaldi, il faut en ajouter un autre, d'ordre bêtement sémantique. L'inhumain est, par définition, ce qui trahit ou contredit notre humanité. Pourtant, ce qu'on appelle l'inhumain est, sinon le propre de l'homme, du moins une modalité de l'humain, dès lors qu'il est un fait que les animaux ne font rien qui puisse être qualifié d'inhumain. Comment résoudre cette deuxième contradiction ? Pour tenter de le faire, nous allons aujourd'hui essayer d'inventer dans ce Science en question une science un peu spéciale. Nous allons examiner si l'on peut bâtir une sorte de géométrie dans l'espace des humains, de métrique singulière, qui permettrait de répondre à la question suivante. À quelle distance l'inhumain se trouve-t-il de l'humain ? Est-elle proche de zéro ? Frôle-t-elle au contraire l'infini ? Ou est-elle banalement moyenne, quelque part entre les deux, pas trop loin du milieu ? En d'autres termes, l'inhumanité est-elle une partie de nous-mêmes ou est-elle une calamité venue d'ailleurs qui nous tombe dessus? Pour répondre à cette question, à ces questions délicates, j'ai le plaisir de recevoir Marilyn Maezo. Bonjour.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes professeur agrégé de philosophie et vous avez publié au mois d'octobre dernier un livre qui m'a fortement intéressé, qui s'intitule « La petite fabrique de l'inhumain ». Vous dites dans la page des remerciements que c'est le roman de Camus, La Peste, qui a inspiré votre livre à plein poumon, dites-vous. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que c'est la pandémie que nous traversons, ou plutôt qui nous traverse, qui a été le déclencheur de votre travail ?
Pas le déclencheur, parce que c'est un sujet qui me hantait, plus que, je ne peux pas dire qu'il m'intéressait, c'est carrément qu'il me hantait depuis facilement 5 ou 6 ans avant que je commence à écrire dessus. Parce que c'est un sujet que j'avais déjà travaillé sous d'autres dimensions, avec un autre angle, qui est celui de la violence. J'ai l'impression que je n'écris qu'autour d'un même sujet depuis le départ, qui est le sujet de la violence, mais parce que la violence est un sujet extrêmement complexe et polymorphe qui m'impose de l'aborder sous différents angles, justement pour ne pas manquer de saisir certaines de ces dimensions qui sont peut-être un peu moins facilement saisissables. Et dans le cas de la petite fabrique de l'inhumain et du sujet que je traite dedans, la peste est arrivée, je dirais, comme un élément révélateur, en fait. C'est déjà un sujet que je travaillais, j'avais beaucoup de questions à ce sujet. J'avais déjà lu La Peste, d'ailleurs, hein, plusieurs fois. Et puis, comme c'est un roman que j'avais l'habitude de relire régulièrement, je l'ai relu. En me disant, histoire de ne pas être redondante, est-ce que je peux trouver un angle différent pour l'aborder? Et l'angle que j'ai choisi, je ne me souviens même pas pourquoi. En fait, j'ai choisi celui-là, mais il se trouve qu'il a été gagnant. Je me suis demandé qu'est-ce qui reste de la peste si on met entre parenthèses tout ce qui renvoie explicitement à la peste. Si on fait un petit peu abstraction, si on passe au second plan les bubons, les morts, tout ce qui renvoie plus directement à l'épidémie, qu'est-ce qui reste dans ce roman de Camus? On pourrait s'imaginer que le roman s'appelant La Peste, il ne va pas rester grand-chose. Et il s'avère que c'est tout le contraire, qu'il y a une sorte de sous-texte, une sorte de souterrain qui ressort lorsqu'on met entre parenthèses les éléments plus spectaculaires du roman, et que ce souterrain ou ce sous-texte est infiniment signifiant et nous aide énormément à comprendre ce qui se passe dans le roman.
C'est-à-dire que la peste ne passe jamais complètement, elle vient par vagues, elle est là même quand elle est invisible.
Oui, et surtout elle laisse des traces, mais elle laisse des traces qui elles-mêmes demeurent invisibles parce qu'elles finissent par se fondre dans le décor un peu comme un dessin sur le sable finit par s'effacer avec le passage répété des vagues. Le problème avec la peste, et c'est le cas pour n'importe quelle catastrophe je pense, c'est qu'elle peut toujours compter sur la capacité d'amnésie des êtres humains qui est liée à leur besoin de retrouver un confort, des repères et...
De réactiver la vie d'avant.
Voilà, et c'est ce qui se passe à la fin du roman d'ailleurs, hein, désolé pour le spoiler, mais une fois qu'on est convaincu que l'épidémie est passée, c'est la fête partout, les gens descendent dans les rues, il n'y a plus aucune inquiétude, il y a l'insouciance qui reprend ses droits, on pourrait dire, et le seul qui apporte un bémol à ça et qui reste de côté parce qu'il a conscience justement que, je le cite, la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, c'est Rieu, parce que c'est le docteur.
Est-ce que cette question de l'inhumain est une vieille question, hein? Est-ce qu'elle se manifeste avec des formes nouvelles? En quoi elle est actuelle? Est-ce qu'il y a des variants, pour reprendre une analogie de circonstance, des variants de cette manifestation de l'inhumain dans la vie de l'humanité?
Je le crois. Quand Rieu dit que la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, ça ne veut pas dire qu'elle réapparaît à l'identique. Je pense qu'il y a effectivement des variants ou des mutations de l'inhumain qui se calquent sur les mutations de la société, tout simplement. L'inhumain ne peut pas se manifester de la même manière, par exemple, au XXe siècle, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, et un siècle où, depuis, il y a eu plusieurs révolutions qui sont passées par là, à commencer par la révolution du numérique, qui peut changer un certain nombre de choses. Il y a des changements dans nos manières de nous rapporter les uns aux autres, dans nos manières de consommer, dans nos manières de nous déplacer, dans nos manières même d'apprendre, dans nos manières de nous rapporter aux connaissances et dans leur possibilité d'accès. Et tous ces changements, forcément, vont induire des modifications vis-à-vis de l'inhumain, sans pour autant changer, j'ai envie de dire, le cœur hein, du bacille, qui est toujours la tentation de défaire chez l'autre cette part qu'il a en commun avec nous.
Vous savez sans doute, Marilyn Maizeau, que Science en Question est une émission dans laquelle on aime les anagrammes.
Oui.
Et mon ami Olivier Garcia en a trouvé deux à propos du titre de votre livre. Alors la première, c'est « La petite fabrique de l'inhumanité ». C'est pas exactement le titre, c'est « L'inhumanité au lieu de l'inhumain ». Eh bien ça donne « Fait de l'éthique, un aimable pétrin ».
Waouh.
Ça vous va?
Magnifique, merci Olivier.
Et une seconde, alors « La petite fabrique de l'inhumain » qui donne « Fait démentir la haine publique ».
Incroyable.
Ça vous inspire?
Ah oui, je vais y réfléchir.
Alors pourtant, au début du livre, vous parlez de Camus, mais vous parlez de l'étranger, et non pas de la peste. Notamment, vous citez le personnage principal, Meursault, qui comparaît pour le meurtre d'un homme croisé sur la plage. Et qu'est-ce qu'on lui reproche à Meursault, finalement? D'avoir tué ou plus que ça, ou moins que ça?
C'est une bonne question parce que quand on assiste au procès de Meursault, qui d'ailleurs est pour moi est un exemple parfait de ce que j'appelle la petite fabrique de l'inhumain, on se demande pourquoi il est jugé. On sait qu'il est jugé pour le meurtre celui qu'on appelle l'arabe, parce qu'il n'a pas de nom, l'arabe sur la plage. Mais les questions qui lui sont posées, la manière dont on l'interroge, introduit un certain doute. On lui demande avec qui il était, qu'est-ce qu'il faisait après l'enterrement de sa mère. On voit pas trop le rapport en fait avec son crime. Et lorsqu'on entend le réquisitoire de l'avocat général, on réalise que bien plus que pour le crime particulier qu'il a commis, le crime supérieur, le métacrime qu'on lui reproche ou qu'on veut lui coller sur le dos parce qu'on a besoin de le faire, c'est un crime de lèse-humanité. On veut lui reprocher justement de s'être extrait lui-même de l'humanité. Donc on va faire, c'est ce que l'avocat général fait, il veut faire ressortir ce qu'il appelle l'âme criminelle de Meursault. C'est intéressant, l'âme criminelle, ça veut dire que Meursault n'a pas commis ce crime pour des raisons extérieures, exogènes. Il a commis ce crime parce que c'est dans sa nature même d'être un meurtrier. Donc on va essayer d'agglomérer ensemble des éléments qui sont sans lien, le fait qu'il ait pas pleuré à l'enterrement de sa mère, le fait qu'il ait préféré coucher avec sa concubine et aller voir un film de Fernandel, le fait qu'il fréquente un homme dit de mauvaise moralité, tout ça va être aggloméré pour fabriquer artificiellement ce que l'avocat général appelle une âme criminelle et ce que moi je qualifierais volontiers d'inhumain.
L'inhumanité. Donc c'est un homme inhumain, c'est ça qu'on lui reproche.
Oui, en fait, ce qu'on fabrique à ce moment-là, c'est une image visible, palpable et haïssable de l'inhumain.
Alors ce que vous dites, Marilyn Maizeau, c'est que inhumain et monstrueux sont deux adjectifs qui sont considérés comme quasiment synonymes et qui en réalité ne le sont pas. Vous écrivez, Vous écrivez « La différence entre le monstrueux et l'inhumain semble se loger dans la dissipation de l'ambiguïté que charrie le premier au profit du divorce chirurgical que dénote le second ». Ça demande une petite explication.
Oui.
Et je voulais comparer ce que vous dites là à ce qu'en dit Nicolas Grimaldi, que j'ai déjà cité, qui écrit lui « Certes, les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Les plus dangereux sont les hommes ordinaires, ces fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter ».
Oui, mais en fait, on se rejoint. Je pense qu'on se rejoint parce que ce qui à mes yeux distingue l'inhumain du monstrueux, c'est que le monstrueux, il a la gentillesse, comme son nom l'indique, comme son étymologie l'indique, de se montrer, donc de ne pas avancer masqué. Quand on qualifie quelqu'un de monstre, généralement, on arrive à mettre le doigt sur des caractéristiques palpables, comme je le disais tout à l'heure, qui font que son caractère monstrueux est évident pour tous. Et aussi, c'est ce qui permet de déceler, justement, comme vous le suggériez, la distance qui sépare l'être humain, disons, normal, du monstre. Par exemple, si on a quelqu'un qui commet un crime dont on estime que ça dissimule une monstruosité morale, ben on peut regarder ce qu'il a commis et, par comparaison avec ce que ferait un être humain normal, si vous voulez, estimer la distance qui sépare les deux. Le problème avec l'inhumain, c'est que justement, on essaye de trouver la distance et elle est beaucoup moins flagrante. Entre les grands monstres qui ont nourri notre imaginaire et qui nous font trembler sous les couvertures pendant Halloween quand on regarde des films où ils sont mis en scène, et à côté de ça, par exemple, le petit fonctionnaire nazi tel que le dépeignait Hannah Arendt dans sa retranscription du procès Eichmann, il y a une distance infinie, en fait. Parce que l'un, le monstre, c'est l'exception qui confirme la règle qui nous tranquillise. L'inhumain, c'est le voisin, c'est le proche, c'est celui
c'est
qui se cache
tout le monde.
Pas. C'est ça, c'est monsieur tout le monde, c'est-à-dire potentiellement nos proches, voire nous-mêmes. Si des gens qu'on considère comme qui semblaient parfaitement normaux, pourrait-on dire, extérieurement, sont capables de commettre des actes d'une telle gravité, qu'est-ce qui m'assure que moi, dans certaines conditions, je ne pourrais pas me retrouver à sa place. C'est ce qui fait peur, je pense, dans le cas de Meursault, et ce qui fait qu'on a besoin de le condamner et de le supprimer, pour supprimer le problème en supprimant son symptôme, si vous voulez, c'est que Meursault nous ressemble beaucoup trop. Meursault, si c'était vraiment un monstre, je pense qu'on aurait peut-être plus de magnanimité vis-à-vis de lui, parce qu'on se dirait, bon voilà, il est monstrueux, c'est une erreur de la nature, il y est pour
c'est
rien.
C'est pas de sa faute.
Voilà, là, ce qu'on supporte pas, c'est que on sent que la pente glissante qui pourrait nous amener à faire ce qu'il a fait lui, est extrêmement extrêmement proche, extrêmement familière. Il le dit lui-même, on lui demande « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Il a l'audace de répondre « C'est à cause du soleil. Oui, j'avais un pistolet parce que je le gardais pour protéger mon ami d'aller tirer sur la personne avec qui s'était disputé. Et je me suis retrouvée sur la plage et j'avais peur et le soleil dans les yeux et du coup je voyais plus ce que je faisais. Et paf, j'ai tiré. » Autrement dit, il y a aucune rationalité, si vous voulez, il n'y a aucune causalité claire qu'on peut établir, d'où la panique que ça crée. Parce que le monstre, on arrive toujours à lui retrouver une histoire, il est devenu monstrueux pour telle ou telle raison. Les exemples que je prends d'ailleurs renvoient à ça. Je prends l'un des exemples les plus contemporains avec l'exemple du mutant Magneto dans l'univers Marvel. Magneto, oui, c'est un monstre, c'est quelqu'un qui a des tendances génocidaires, il veut exterminer la race humaine. Mais pourquoi ? Parce que lui-même, il a subi un génocide, parce qu'il a été à Auschwitz, parce que ses parents ont été assassinés sous ses yeux, et qu'il a le sentiment que s'il n'extermine pas la race humaine, c'est la race humaine qui exterminera les mutants comme lui, comme ça a déjà été le cas première fois. Donc il y a une explication qui n'est pas une justification, mais au moins on comprend le cheminement qui peut amener quelqu'un à faire ça. Dans le cas de Meursault, on cherche des explications, on lui pose la question et il n'y a rien qui vient.
Il n'y a pas de relation causale entre lui et son acte.
Voilà, parce que si on n'a pas la causalité, si on n'a pas une vision claire de ce qui peut mener à ce genre d'acte, ça veut dire que ce genre d'acte peut se produire à notre insu sans qu'on puisse l'arrêter. Et ça, c'est terrifiant.
C'est ce qu'a montré Hannah Arendt dans son livre Eichmann à Jérusalem, où elle montre que l'atrocité de l'acte ne se reflète pas forcément dans la personnalité de son auteur.
Oui.
Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle la banalité du mal ? Parce que j'ai compris qu'il y avait des malentendus sur le sens de cette expression.
Il y a eu toute une controverse au moment de la sortie de Eichmann à Jérusalem, son rapport sur la banalité banalité du mal. Et on lui a reproché notamment de banaliser la gravité des crimes nazis en utilisant un terme qui n'était, selon ses détracteurs, pas du tout adapté. Enfin, c'était indécent de parler de banalité du mal quand on voyait l'énormité du mal commis. Et elle expliquait, et elle, c'est ce qu'elle faisait d'ailleurs dans ce livre, donc c'est un reproche qui était infondé, que banalité, le terme banalité ne caractérisait pas les crimes eux-mêmes, mais le décalage. Le décalage, en fait. Ça ne caractérise pas une chose ou une autre, ça caractérise un rapport. Le rapport entre l'énormité du crime et la petitesse, la médiocrité au sens, encore une fois, étymologique, du criminel. Quand on voit, par exemple, l'énormité des crimes nazis, effectivement, on pense que seul un monstre est capable de faire quelque chose d'aussi exceptionnel. Seul quelqu'un d'exceptionnellement méchant, mauvais, est capable de faire de commettre un acte aussi grave. Et quand on regarde quelqu'un comme Eichmann, on a envie de dire l'équation n'est pas correcte, en fait. Il y a un décalage, si vous voulez, c'est presque, pour le coup, que je parle d'équation en utilisant une image à dessin. On a cette vision des choses qui est un peu kantienne, je trouve, qui consiste à dire que quand on a un effet avec une ampleur donnée, il faut que la cause ait au moins l'ampleur donnée, voire plus. Et là, c'est l'inverse qui se produit. On a un effet énorme, et quand on regarde la cause qu'on nous donne à voir, on a un petit rien du tout. Et
il y a quelque chose. Là, vous rejoignez Nicolas Grimaldi, hein, qui dit la même chose en d'autres termes. Il dit, on s'attend à rencontrer Néron ou Dracula, et on trouve Topaz.
Oui, ah, je le rejoins totalement là-dessus.
En débusquant les auteurs des plus fantastiques atrocités, on est tout étonné en effet de découvrir des personnalités falotes, appliquées, besogneuses, si étroitement corsetées par les impératifs de leur conscience morale qu'elles semblent aussi incapables de la moindre perversion que de la moindre transgression. Eichmann n'ira-t-il pas jusqu'à dire devant son tribunal qu'il n'a jamais agi selon d'autres principes que ceux de la morale kantienne?
Oui, justement.
C'est horrible.
Oui, et je pense que c'est l'une des raisons, au moins, pour lesquelles on fabrique des monstres. Paradoxalement, oui, on peut fabriquer des monstres pour se faire peur, mais j'ai envie de dire qu'on fabrique des monstres aussi pour se rassurer, parce qu'on les fabrique pour se faire peur, mais d'une manière contrôlée. Le monstre, si vous voulez, quand vous le fabriquez, justement avec cette idée qu'il y a une causalité derrière, il y a quand même une maîtrise lorsque vous le fabriquez. Vous lui attribuez vous-même des caractéristiques qui permettent d'expliquer ses actes. Donc on est quand même dans un univers avec une certaine maîtrise. En plus, vous avez le loisir de le fabriquer avec des traits caractéristiques, des traits qui permettent de le distinguer des autres. Donc le loup-garou, si vous voulez, au milieu de la population, vous allez facilement le repérer. Et j'ai envie de dire que justement, on fabrique des monstres comme ça, symboliques, des monstres visibles, des monstres exacerbés, pour se protéger des monstres réels, guillemets à monstres, pour se protéger justement de cette conscience insupportable qui est que ceux qu'on appelle les monstres et qu'on aime à imaginer avec les babines retroussées, avec des tailles effrayantes, sont en réalité des gens souvent qu'on côtoie tous les jours, à qui on dit bonjour, qui nous sourit, qui nous ressemblent. Et ça, c'est terrifiant parce que ça veut dire qu'on ne peut plus jamais s'endormir tranquille.
Vous dites dans votre livre, vous rappelez plutôt une phrase célèbre, une sorte de dicton qu'on doit, je crois, à Talleyrand,
oui.
Qui est « tout ce qui est excessif est insignifiant ». Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette formule? Et en quoi rejoint-elle ou pas le livre qu'a écrit Camus sur l'insignifiance? Il a écrit d'ailleurs plusieurs versions du même livre.
Oui, c'est un petit texte.
Un petit texte qui s'appelle « De l'insignifiance ».
Oui.
Et vous dites, en résumant la pensée de Camus, que pour lui, tout insignifiant est un insignifié.
Oui.
Est-ce que vous pouvez décoder tout cela de façon pédagogique?
En commençant par Talleyrand. Alors la phrase qu'on attribue à Talleyrand, qui est censée être une réplique à une injure qu'on lui avait lancée.
Napoléon, je crois.
Voilà, il lui aurait dit « Vous êtes une... » Désolé pour mon vocabulaire, je cite, hein, « Vous êtes une merde dans un bas de soie ». Et il aurait rétorqué « tout ce qui est excessif est insignifiant ». Le sens de cette phrase, c'est « si vous vous sentez obligé de répondre de manière disproportionnée à ce que je vous dis, c'est que vous n'avez rien d'intelligent à dire ». Si vous faites dans l'excès, s'il y a un décalage énorme entre le niveau de langage de mon propos et votre réaction, c'est que votre réaction finalement est nulle en ayant voulu être excessive. Et le problème, c'est que, tout en comprenant le sens que veut donner Talleyrand à sa formule, et j'ai envie de dire que, sur le principe, elle est juste, les choses devraient être comme ça, mais dans les faits, elle est fausse, parce que, au contraire, plus quelque chose est excessif, plus il va être signifiant, au sens où plus il va nous sauter aux yeux, signifiant au sens de quelque chose qui se signale, quelque chose qui s'entend, quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu. Et là, on arrive à Camus et à ce petit texte sur l'insignifiant qui le travaille depuis au moins 1943. On a une première version, une sorte de brouillon de ce qui deviendra son article dès 1943 dans ses carnets, puis une première version de l'article qui sort en 45, et enfin une dernière version en 59, avec dans l'intervalle, avec la peste, donc en 47, une allusion à l'insignifiant dans la deuxième chronique qu'on trouve dans le roman, qui est celle de Tarou, chronique avec un parti pris d'insignifiance, dirais-je.
Tarou, c'est le personnage qui ne croit que dans l'observation, c'est ça?
Tarou, c'est le personnage
qui décrit la peste avec dans son journal.
Voilà, c'est celui qui, dans son journal, dont Rieu relève qu'il est un peu étrange, parce qu'il a un parti pris d'insignifiance, selon Rieu. C'est un journal où il relève des faits qui ont l'air sans rapport avec la peste. Tarou, au premier abord, on a l'impression que c'est un peu le Socrate, le Socrate d'Aristophane. C'est celui qui plane dans les nuées, qui est hors sol, qui n'a pas l'air de comprendre ce qui est en train de se jouer sous ses yeux. Il est en train, par exemple, de décrire dans un moment donné dans ses carnets, tel que le cite Rieu, un vieillard qui aime se pencher tous les jours à son balcon et puis jeter des petits morceaux de papier pour attirer les chats et ensuite leur cracher sur la tête. On voit pas vraiment le rapport avec ce qui est en train de se passer, ou qui rapporte une conversation entendue dans un tramway, ou qui réfléchit à la topographie de la ville d'Oran. Et quand on lit, c'est vrai qu'on se dit mais il est au courant qu'il y a une épidémie qui est en train de faire des morts tout autour de lui. Et en fait, paradoxalement, quand on suit Tarou et son soi-disant parti pris d'insignifiance, on réalise que c'est peut-être le personnage le plus clairvoyant, parce que c'est lui qui dit « tout le monde la porte en soi, la peste, personne au monde n'en est indemne », ou encore « j'étais malade bien avant de connaître cette ville ». C'est lui qui comprend que la peste, en fait, c'est pas une épidémie qui a commencé au début du roman, mais que c'est une situation, une atmosphère avec des moments d'accalmie et puis des moments de rechute. C'est lui qui comprend tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par parti pris d'insignifiance? Ce que Camus explique dans son article, et qui me semble très juste, et dont on n'a pas forcément conscience, c'est que l'insignifiant, ça n'est pas l'insensé, ça ne renvoie pas à une réalité objective. Il n'y a pas des choses qui seraient objectivement signifiantes et d'autres qui seraient insignifiantes. L'insignifiant implique toujours, dit Camus, un rapport, c'est-à-dire que quelque chose sera toujours insignifiant du point de vue de quelqu'un, dans telle circonstance, par rapport à autre chose, etc. Ce qui veut dire aussi que quelque chose peut être signifiant à une certaine époque et dans une certaine situation, puis ensuite, progressivement, ne plus l'être. C'est ce que j'appelle l'insignification des choses. Et je parle même d'insignification programmée des choses, parce que, et ça aussi Camus le suggère, toutes les choses ont tendance à naturellement, comme une forme d'inertie, si vous voulez, à tendre vers l'insignifiant. C'est-à-dire que quelque chose qui, au départ, par l'effet de nouveauté, peut nous sauter aux yeux, nous interloquer, se faire remarquer, à force d'habitude, si on le voit suffisamment régulièrement, bah, ça peut finir par faire partie du décor et donc ne plus être signifiant, c'est-à-dire ne plus signaler quoi que ce soit, ne plus envoyer un signal qui fait qu'on le repère. Et donc, dans la peste, c'est un peu ce qui se passe. Quand on comprend vraiment ce qui se joue dans le roman et quand on lit Tarou et qu'on comprend l'importance de son expérience, ce qu'il nous explique, c'est que la raison pour laquelle la peste, les Oranais ne l'ont pas vu arriver, la raison pour laquelle ils ont faussement l'impression qu'elle tombe du ciel, c'est parce que les éléments de la peste, si vous voulez, le bacille à un état inférieur de développement, il était déjà là, mais comme il était là depuis très longtemps, il avait atteint un certain état d'objectivité où il passait inaperçu. On avait pris l'habitude de faire certaines choses, on avait pris l'habitude de tenir certains propos, on avait pris l'habitude de laisser faire certaines situations qui auraient pu nous paraître insupportables à une époque, mais bon, puisque c'est rentré dans la normalité, on ne fait plus attention. Et toutes ces petites compromissions-là, ces petites compromissions avec la réalité, c'est ce qui permet de préparer un terreau favorable à la peste.
Donc il faut inverser la formule de Talleyrand.
Oui. Tout ce qui est excessif est hyper signifiant.
Vous écrivez d'ailleurs, plus le signal est tonitruant, plus il s'imposera à nous, et plus le pondéré peinera à se faire entendre. Dopé au tapageur, notre capacité d'attention s'engourdit comme un muscle excessivement sollicité, et le domaine de l'imperceptible ne cesse de s'étendre sous l'influence conjointe de l'habitude et de l'hyperbole. Mais est-ce que c'est pas la situation actuelle que vous êtes en train d'écrire?
Entre autres choses, oui, et je pense dans différents domaines, par exemple sur le plan médiatique, je pense qu'on est en plein dedans, parce que quand vous êtes en permanence mitraillé d'informations continues, de données qui viennent de sources extrêmement différentes, pas forcément d'ailleurs hiérarchisées, quand vous entendez une chose et son contraire à longueur de journée, quand vous avez surtout des débats qu'on appelle débats mais qui n'en sont plus, des gens qui se hurlent dessus sur des plateaux où on n'entend plus vraiment ce que l'un dit ou ce que l'autre dit, parce que le but c'est pas d'entendre ce que chacun dit, c'est de faire en sorte justement de rendre le débat impossible. Si chacun est en train d'insulter l'autre et de hurler au moment où l'autre parle, mais on va pas entendre ce que l'autre dit, et c'est bien le but. On est dans une situation d'hypersignifiance, au sens, une situation qui est saturée. Saturée de sens, saturée de son, saturée même d'image, hein, puisque l'univers du spectacle que cette situation médiatique crée, c'est ce à quoi ça renvoie. Quand on est dans une telle situation de saturation sur tous les plans, il n'y a pas le jeu nécessaire, l'espace nécessaire pour pouvoir justement réfléchir, distinguer ce qu'on voit. Hein, si je vous envoie une avalanche de couleurs en plein dans la figure, vous n'allez pas avoir la possibilité de distinguer les différentes nuances de couleurs comme vous pourriez le faire si vous aviez la distance nécessaire. C'est la raison pour laquelle, face à un tableau, vous n'allez pas coller le nez sur le tableau. Il faut avoir une certaine distance pour pouvoir en avoir une vue panoramique. Aujourd'hui, on est dans une situation où, les trois quarts du temps, quel que soit le sujet, on a le nez collé sur l'écran. Et donc, on ne distingue plus les choses parce que elles sont hypertrophiées.
Marilyn Maizeau, qu'appelez-vous une atonie d'accoutumance? Est-ce que c'est une forme d'engourdissement qui empêche de voir ce qu'il y a vraiment à voir, comme disait Peggy? Ce qui est le plus difficile, voir, c'est bien, mais voir ce qu'il y a à voir, c'est beaucoup plus difficile. Je pense à ce qui nous est arrivé avec la pandémie, où d'aucuns au départ parlaient d'une petite grippette.
Oui, alors l'atonie d'accoutumance, ce que j'appelle l'atonie d'accoutumance, c'est à la fois un phénomène qu'on subit, parce qu'il y a une sorte de pente naturelle que j'évoquais tout à l'heure, hein, on est naturellement constitué pour rechercher le confort, les repères, les choses qui nous permettent d'exister sans trop souffrir au quotidien. Et en même temps, il y a une part de volonté qui est que ça n'est pas un hasard, à mon sens, si on finit par s'habituer à peu près à tout. Ce que j'appelle donc l'atonie d'accoutumance, c'est le fait que un phénomène qui, lorsqu'il est révélé pour la première fois, peut créer le scandale, l'indignation, si par exemple c'est un phénomène qui montre une injustice, avec le temps, avec l'apparition d'une autre actualité, d'autres phénomènes qui vont eux-mêmes créer une nouvelle indignation, il va y avoir progressivement passage au second plan de ce phénomène, jusqu'à ce qu'on finisse par le ranger dans un coin de la tête qui est suffisamment remisé pour qu'on n'y pense plus. Et typiquement, c'est ce qui se passe dans une actualité justement qui joue par effet de choc sur tel et tel phénomène mondial. Par exemple, quand en ce moment, je dis pas en ce moment pour aujourd'hui, mais si l'actualité du moment c'est ce qui se passe en Syrie, si ensuite ça devient le conflit israélo-palestinien, si ensuite on passe à la famine au Yémen, il va y avoir une situation où la capacité des gens à s'impliquer émotionnellement et intellectuellement et à s'indigner va être un petit peu, j'ai envie de dire, à la remorque de la sphère médiatique. Ce dont on va parler à ce moment-là, c'est ce dont il va falloir parler, c'est ce sur quoi il va falloir s'indigner, indépendamment, si vous voulez, de la véritable chronologie des faits dans la réalité. Parce que l'impression que ça donne, c'est que, si vous voulez, les faits ont la gentillesse, une fois encore, de se mettre à la queue-leu-leu les uns vis-à-vis des autres. Hein. Chaque conflit a son temps, alors que dans les faits, ce qui se passe, c'est que c'est le conflit dont on a entendu parler médiatiquement à tel moment et qui ensuite passe au second plan, il continue exactement de la même manière. Mais comme on peut pas, si vous voulez, être sur tous les fronts en même temps, avoir une attention qui pense absolument à tout en même temps, qui s'indigne surtout à 100% en même temps, on a tendance justement à créer cette sorte de j'ai envie de dire d'écran médiatique vis-à-vis du monde qui fait que on attend littéralement un petit peu comme un acteur peut attendre la réplique si elle lui manque, on attend que médiatiquement on nous indique le sujet du moment et tous on va se mettre à en parler, mais donc à en parler toujours sur les mêmes termes excessifs, toujours avec l'indignation qui va prédominer par rapport au recul et à la réflexion, ce qui fait que on est un petit peu enfermé dans la situation des oranais de la peste, c'est-à-dire qu'on reproduit toujours le même schéma, mais avec, j'ai envie de dire, un résultat un peu nul, parce que l'effet mimétique et l'effet de reproduction est un petit peu l'ennemi justement de la réflexion, de la capacité à saisir la spécificité d'un phénomène, la capacité à pas rabattre un phénomène sur l'autre. Je pense, puisqu'on est dans ce contexte-là, je vais prendre un exemple peut-être pour illustrer pour les auditeurs. Vous avez dû voir qu'avec le contexte de la pandémie, il y avait une résurgence des parallèles entre la vaccination et ce qu'on a fait subir aux Juifs dans les camps d'extermination. Il y avait avait des...
Dans certaines manifestations.
Voilà, certaines manifestations. Il y avait certains manifestants qui arboraient une étoile jaune avec l'idée que vouloir vacciner aujourd'hui les gens avec un vaccin soi-disant meurtrier, bah, c'est l'équivalent des tests monstrueux qu'on faisait subir aux Juifs, que Dr Mengele faisait subir notamment aux Juifs. Pourquoi ça m'intéresse cet exemple-là? Parce que c'est typiquement, je trouve, un symptôme de l'épuisement de notre attention et de notre capacité et de réflexion et d'imagination. Parce qu'à mes yeux, comme ceux de Camus, les deux sont liés. Lorsqu'on a un phénomène qui nous interpelle, on va tout le temps puiser dans la même, j'ai envie de dire le même bassin extrêmement réduit d'exemples historiques et de réactions que ça suscite. Là, typiquement, la Shoah, on la met absolument toutes les sauces. Avant, la vaccination, c'était autre chose. Ça fait des décennies maintenant. C'est l'exemple qui est ressorti à toutes les sauces. Non pas parce que on considère, parce qu'on a une connaissance véritable de ce phénomène historique et qu'on considère que c'est pertinent de faire le parallèle, mais parce qu'on sait que ça a un avantage, ce phénomène historique, c'est que ça va créer la même indignation et que le but, c'est de faire ça. Donc, on le ressort un petit peu à toutes les sauces.
Marine Maizot, quand j'étais lycéen, ma classe de terminale était clivée entre sartriens et camusiens. Vous êtes une spécialiste de Camus. Et le professeur de philosophie que nous avions à l'époque insistait pour dire que Camus était un penseur humaniste. Or, en vous lisant, je découvre une citation de Camus qui jette le trouble sur cette façon de définir. Il dit « Je n'ai rien contre l'humanisme, bien sûr. Je le trouve court. Voilà tout. » Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, pour comprendre cette formule, faut la replacer dans...
Parce que lui-même, du coup, se définit pas comme un humaniste radical.
Non. Non. Et c'est vrai que souvent, on parle de l'humanisme de Camus, et quand je lis ça, j'ai envie de dire entendu, mais faut d'abord s'entendre sur ce qu'on entend par humanisme. Quand Camus dit que l'humanisme, il a rien contre, mais il trouve qu'il a la vue courte, c'est parce que, il dit que le problème avec l'humanisme, c'est que ça a tendance à nous amener à forger une vision de la réalité où le monde est un petit peu fait à notre échelle et en fonction de nos besoins. Et que donc, ça, c'est ce qui nous rend vulnérables aux catastrophes et aux crises comme la peste, ou comme les crises politiques que la peste peut symboliser, comme par exemple une guerre ou le phénomène du nazisme. Parce que l'humanisme tel que le comprend Camus a ce défaut de nous faire oublier une réalité qui est au fondement de sa propre expérience, à savoir l'absurdité. Le monde n'est pas fait à notre image, le monde n'est pas fait pour nous, n'est pas fait selon nous, et le monde se contrefiche de notre présence ou notre absence. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un fléau, ça n'est pas parce que le fléau nous semble aller à l'encontre de ce qui constitue à nos yeux l'essence même de l'humanité, qu'il va pour autant être bref. Cette citation est introduit dans un passage où il y a une autre phrase qu'on cite souvent. La bêtise insiste toujours. Cette phrase, on la répète souvent. Là, pareil, c'est important de la replacer dans l'extrait pour la comprendre. Le narrateur, lui, est en train de dire quand une guerre éclate, on dit « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Oui, mais la bêtise insiste toujours. Et le problème, c'est que les humanistes qui se disent « c'est trop bête », l'humanisme, les valeurs humanistes vont toujours reprendre le dessus, les gens vont reprendre leurs esprits, vont se réveiller, vont se dire « mais on est fou de faire ça », et ça va s'arrêter. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ? Parce que les fléaux ne sont pas à la mesure de l'homme. Et que lorsque l'homme veut se rassurer en les réduisant symboliquement à sa mesure, bah, il passe à côté de leur véritable ampleur. Et il leur donne un avantage sur eux, qui est de toujours avoir une longueur d'avance.
Donc si je vous comprends bien, Marine Maizot, ça veut dire que l'humanisme biaise nos jugements. Oui. Et il nous fait croire que le réel... est sous contrôle, en fait.
Oui.
Il est à la mesure de notre condition, alors qu'en réalité, nous sommes dépourvus quand l'adversité vient nous défier.
Oui, et en plus, je pense que vraiment, il faut prendre la formule, l'image que Camus emploie presque littéralement quand il dit « je le trouve court ». Je le trouve court, on peut tout à fait l'entendre dans un sens, disons, matériel, sens de la longueur de la distance. L'humanisme est court, déjà parce qu'effectivement, il nous donne une vision du monde qui est tronquée, qui est biaisée, qui est à la mesure de l'homme et pas à la mesure du monde lui-même, mais aussi parce que il nous donne une vision elle-même courte, une vue courte sur les événements, et l'épidémie en est un excellent exemple. Les Oranais, encore une fois, ont l'impression que ça leur tombe sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la vue courte, parce qu'ils oublient que oui, c'est trop bête, mais ça n'est pas parce que c'est trop bête que les hommes sont au-dessus de ça, que l'histoire de l'humanité est tissée de bêtises qui ne font que se répéter, justement parce qu'on part du principe que quelque chose qui est trop bête implique qu'on va apprendre de nos erreurs. Ce qui faisait dire, par exemple, parce que c'est une formule excessivement humaniste du point de vue de Camus dans ce contexte, qui faisait dire aux héritiers de la Première Guerre mondiale, c'est la der des der. Quelque chose d'aussi terrible, avoir tué des millions de personnes pour rien, c'est pas possible que ça se reproduise, c'est la première et la dernière. Ça n'a rien empêché, parce que justement, on a la vue courte et que l'inertie faisant son travail, on oublie toujours de regarder comment les phénomènes sont arrivés et on attend qu'ils repointent le bout de leur nez pour regarder en l'air comme si ils tombaient de nulle part au lieu de regarder derrière nous et de regarder surtout les traces au sol qui ont pu mener jusqu'à ce qui se passe au présent.
Mais ça nous est arrivé récemment. Je me souviens qu'à la fin du premier confinement, on s'attendait à trouver le monde de demain.
Oui, le monde d'après.
Le monde d'après, pardon.
Oui, mais d'ailleurs, j'avais écrit un petit texte à ce sujet-là, en évoquant l'image des lents demains qui chantent, en deux mots, parce que c'est ce qu'on appelle un topos, hein, dans la culture. Un topos, c'est-à-dire un lieu commun, sans connotation péjorative, hein, c'est un motif qui a tendance à revenir au fil du temps et à travers les différents arts, les différents supports culturels. L'idée du monde d'après, c'était basé sur un postulat implicite humaniste, pour le coup. Humaniste au sens où Camus l'entend. C'est-à-dire que quand on parle du monde d'après, on croit à plusieurs thèses sans forcément s'en rendre compte. La première, c'est que justement, ça ne peut pas durer. Quelque chose comme ça qui bouleverse à ce point le quotidien, qui nous tombe dessus sans créer gare, ça peut pas durer. C'est provisoire, confère, hein, sur ce qu'on disait au début, sur la grippette, c'est rien du tout, vous inquiétez pas. Autre postulat que ça implique, c'est vu l'énormité des sacrifices que ça nous a demandé, ça ne peut pas être en vain. Donc, ok, c'est arrivé, mais vu ce qu'on a dû sacrifier dans ce contexte-là, ça implique que derrière, il y a un changement radical. On ne peut pas avoir ce genre de bouleversement et revenir à la normale comme si de rien n'était. Il faut qu'on ait quelque chose à y gagner, si vous voulez. Et derrière ça, on a cette fausse idée, je crois, ou cette fausse croyance qui consiste à dire que les fléaux sont là pour nous apprendre quelque chose. Les gens qui veulent lire un petit peu dans les fléaux comme dans une boule de cristal, qui voit qu'une crise sanitaire, politique ou autre est arrivée et qui considère qu'au moins ça a eu un avantage, c'est que ça nous aura appris telle et telle et telle chose. Ça, c'est trompeur. Pourquoi ? Parce que si vous y regardez de plus près, ce qui nous est arrivé avec le Covid, ça n'est rien qu'on ne savait déjà sur la relativité de notre préparation, sur le double tranchant qu'implique de vivre dans un pays où le système sanitaire est développé, parce qu'à la fois c'est un énorme avantage au quotidien et c'est un inconvénient parce que quand on croit justement que notre système sanitaire nous met à l'abri, on n'est pas préparé comme on peut l'être dans d'autres pays pour subir ce genre d'épidémie qui justement ne relève pas du quotidien mais de l'exceptionnel. Et ça, en fait, c'est un ensemble de choses qui montrent à quel point, quand on pense que les fléaux viennent pour nous apprendre quelque chose, c'est faire l'impasse sur un élément qui me semble essentiel et que Camus pointait d'ailleurs dans sa formule sur l'humanisme, c'est que pour qu'on puisse apprendre quelque chose des fléaux, encore faut-il qu'on ait la capacité à apprendre durablement. La raison pour laquelle on a toujours l'impression qu'on va apprendre quelque chose alors que les phénomènes ne nous apprennent rien de nouveau, c'est parce que justement on a oublié entre-temps.
Vous voulez dire que tous les fléaux, notamment les épidémies, sont toujours suivis d'une sorte d'amnésie collective ?
Oui, d'amnésie collective, parce qu'elle est, je pense, en partie du moins, la condition de la tranquillité rapide. Il est normal, il est naturel, j'estime, que face à un traumatisme, qu'il soit collectif ou individuel d'ailleurs, personnel, le besoin d'oublier se fasse sentir, le besoin d'occulter, le besoin de passer à autre chose et de faire un petit peu comme si ça ne s'était pas passé. Le moment de la fête, hein, à l'issue de l'épidémie dans le roman de Camus, illustre ça. C'est le moment où on a besoin de, même ne serait-ce que l'espace de quelques heures, d'oublier qu'il y a quelques jours encore, on enterrait des morts par centaines. Pourquoi ? Parce que c'est la condition de possibilité pour que la vie soit supportable. Si quand vous avez eu comme ça un phénomène traumatique qui est lié, par exemple, en l'occurrence, une crise sanitaire, où vous avez perdu des proches, vous avez parfois pas pu les enterrer en raison des obligations sanitaires, vous avez besoin à côté de ça de recréer, j'ai envie de dire, un univers où le Covid n'existe plus et où donc vous pouvez retrouver un petit peu cette normalité qui vous a été arrachée et à laquelle vous teniez tant. C'est une question d'équilibre en fait. On peut supporter, j'ai envie de dire, les coups du sort, mais justement on ne peut les supporter qu'à condition qu'on les perçoive comme des coups, c'est-à-dire comme des phénomènes qui interviennent brutalement, mais qui sont passagers parce qu'ils sont brutaux.
Vous parlez de l'abstraction dans votre livre, Marie de Maizeau. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en méfier? Est-ce que l'abstraction contiendrait quelques germes de l'inhumanité, pardon?
Dans une conférence de 1946 qui s'intitule « La crise de l'homme », Camus avait ce diagnostic que je partage. Il disait « L'Europe, enfin, souffre de meurtre et d'abstraction. Mon opinion est qu'il s'agit de la même maladie ». Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il entendait une chose toute simple, qui est que c'est beaucoup plus facile de consentir au meurtre, c'est beaucoup plus facile de consentir à la déshumanisation, y compris la déshumanisation du quotidien, quand vous n'avez pas à la regarder droit dans les yeux, mais qu'elle se fait de manière, si vous voulez, imperceptible ou impalpable. L'abstraction joue ce rôle-là. On prenait l'exemple tout à l'heure, pour le coup hypertrophié des camps d'extermination et du génocide des juifs par les nazis, ou de n'importe quel génocide d'ailleurs. Typiquement, ce genre d'exemple, ça montre que lorsque vous faites en sorte que les gens ne voient plus Samuel, le meilleur ami de votre fils, ou votre boulangère, Madame Goldstein, mais voient une menace générique, abstraite, le juif, ou quand carrément on ne voit plus des personnes, mais des numéros, puisqu'on remplace les noms des juifs par des numéros qui sont tatoués sur leur corps. Cette abstraction rend possible de transformer un acte de meurtre de masse en acte de bureaucrate, où vous remplissez
C'est exactement ce que dit Nicolas Grimaldi, oui. Qui parle d'un interrogatoire du commandant du camp de Treblinka,
oui.
Auquel on demande « Vous ne les sentiez pas comme des êtres humains ?» en parlant des juifs qu'il tient dans son camp, il répond d'une voix neutre, c'était une cargaison, ça n'avait rien d'humain, ça ne pouvait pas l'être, c'était une masse, voyez-vous, je les ai rarement perçus comme des individus, c'était toujours une énorme masse, quelquefois je les voyais dans le couloir, ils étaient nus, un flot énorme qui courait, conduit à coups de fouet. Et la même question a été posée à Rudolf Höss, qui était le responsable d'Auschwitz, mmh. Il a fait la même réponse, il dit, au début j'éprouvais une impression pénible, puis peu à peu j'ai perdu toute sensibilité, je crois que c'était nécessaire, vous comprenez? Je pensais aux juifs en termes d'unité, jamais en termes d'êtres humains. Je me concentrais sur le côté technique de ma tâche.
Totalement. Et d'ailleurs, les exemples que prend Grimaldi dans son livre ont cet avantage qui est celui de la clarté. Quand vous prenez l'extrême ou l'absolu du mal qu'est l'extermination des juifs à Auschwitz, par exemple, l'inhumain est tellement limpide dans son essence que il n'y a pas vraiment d'interrogation.
Il dit il suffit de ne pas reconnaître son semblable dans l'autre.
Voilà. Le problème, justement, quand on ne perçoit l'inhumain qu'à partir de ces exemples-là, en partant du principe que si on est capable, enfin si on l'étudie dans ses versions extrêmes, on aura plus de facilité à le percevoir derrière dans ses versions plus réduites ou moins flagrantes. Je pense que c'est une erreur parce que justement, les exemples qui nous viennent spontanément pour penser l'inhumain sont ceux-là, ceux où l'inhumain ou l'inhumanité est
l'impact. C'est là votre démarcation finalement avec Nicolas Grimaldi.
Oui, en fait, je disais que je suis Grimaldi sur sa thèse qui est la banalité de l'inhumain, mais là où je m'en éloigne, mais finalement pour le rejoindre, paradoxalement, c'est sur, disons, l'articulation entre la thèse et les exemples. Je défends comme lui la thèse de la banalité de l'inhumain, mais j'estime que les exemples qu'il choisit, qui sont tous des exemples spectaculaires, il prend le premier, c'est les camps d'extermination, mais il parle aussi des guerres de religion, des guerres en général, de la torture, donc des phénomènes, si vous voulez, où la violence et l'inhumanité sont flagrantes. Ma thèse, en fait, c'est que à partir du moment où, comme c'est mon cas, on pense que le spectaculaire a une dimension aveuglante. Si vous vous habituez à ne voir l'inhumanité que lorsqu'il vous hurle son nom à l'oreille, vous n'allez pas être capable de le percevoir quand il chuchote. C'est la raison pour laquelle moi je me suis intéressée à la petite fabrique, petit étant le mot le plus important dans le titre que j'ai donné à mon livre, à savoir essayer de remarquer si ce même phénomène se produit à des échelles plus réduites. Et c'est ce que j'ai pu constater. Ce qu'on vient de décrire, par exemple, avec l'histoire des juifs transformés en chiffres dans un registre, dans une moindre mesure, mais suivant une logique identique d'abstraction, le même phénomène peut être observé, par exemple, quand on ne parle plus des migrants comme des personnes qui meurent en mer, des personnes qui sont arrachées à leur existence, qui perdent tout et qui perdent encore alors qu'ils avaient déjà tout perdu. Mais quand on en parle en termes de problèmes migratoires ou de flux migratoires, ce sont des termes génériques, abstraits, qui rendent plus facile, je pense, le traitement de cette information que ça serait d'être à la frontière.
C'est la même chose que Tarou dans La Peste, qui dit que finalement chacun porte la peste en soi.
Oui, parce qu'il faut surveiller en fait pour ne pas, dans une minute d'inattention, la respirer dans le visage de l'autre et lui coller l'affection. Ça veut dire que l'inhumanité en fait est une potentialité en chacun de nous et que ça n'est qu'à condition qu'on fasse attention au quotidien qu'on est capable de la tenir en respect.
Merci Marilyn Maizot d'être venue défendre l'idée d'une éthique de l'attention, si on peut dire. C'était Science en question par Étienne Klein. Je suis assez déçu de voir que la distance entre l'inhumain et l'humain est finalement assez petite, même très petite.
Elle est petite en réalité, mais elle est énorme sur le plan symbolique. C'est d'ailleurs à cette condition qu'on peut dormir tranquille la nuit.
Bon, c'était donc Science en question par Étienne Klein, je répète, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Hugo Renard et à la réalisation Anne-Laure Chanel.